Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Rendez-vous jusqu'à 14h, votre émission pour mieux faire face, mieux comprendre la crise que nous traversons dans les minutes à venir. Question sur nos libertés publiques. Nous vivons à l'heure de l'état d'urgence sanitaire, de larges pouvoirs laissés au gouvernement et des restrictions radicales de liberté. Les libertés les plus essentielles, se déplacer, se rassembler, travailler, voir nos proches, le tout sous le contrôle de la police et le contrôle potentiel ou déjà là des nouvelles technologies. Quel équilibre trouver avec la lutte nécessaire contre l'épidémie? Quelles dérives possibles? Voilà pour notre sujet jusqu'à 13h ou presque. Et pour dialoguer avec vous, le spécialiste de sciences politiques, directeur de recherche émérite au CNRS Alain Chouraqui et l'un de nos meilleurs spécialistes des sociétés numériques Antonio Casilli. Et puis il y a vous, bien sûr, auditeurs de France Inter et France Culture, nous attendons vos témoignages, vos questions, vos réflexions sur les contrôles de police, le traçage numérique et d'autres sujets au 01 45 24 7000. À 12h55, ce sera le carnet des solutions pour passer la crise avec Philippe Bertrand. 13h, un journal complet. 13h30 avec Mathieu Vidard et son invité. Comment cette épidémie et le confinement change nos rapports à l'alimentation. La tendance du jour, le déconfinement sera probablement progressif selon Édouard Philippe. Écoutez Patrick Bouet, le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
Nous voyons bien qu'il va falloir tester massivement la population et les professionnels pour savoir où nous en sommes au moment où nous verrons diminuer la courbe des hospitalisations et des contaminations. Et donc, il faudra s'adapter à la réalité de chaque territoire et de chaque situation.
Nous sommes à distance, mais tout proche, c'est la définition de la radio. Et c'est parti pour 1h30.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
Et pour amorcer notre dialogue du jour sur les libertés publiques en temps de confinement, extrait d'interview, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sur France Inter, il y a une semaine.
On ne peut pas vivre sans liberté, c'est certain. On ne peut pas vivre sans liberté, mais dans l'esprit même de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la liberté n'a jamais été considérée comme absolue. Et donc, je pense que pour des raisons, on va dire, d'ordre public, on peut toujours, bien entendu, atténuer ces libertés.
Bonjour Alain Chouraqui.
Bonjour.
Directeur de recherche émérite au CNRS, président de la Fondation du Camp des Mille, ce lieu de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Votre regard d'abord sur cette situation et ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Nicole Belloubet. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous déplacer librement, aller voir nos proches, notre famille. Nous vivons avec une présence policière assez massive dans les rues. Regard sur cette situation quand même très exceptionnelle.
Oui, c'est un vrai choc civilisationnel, autant qu'ont pu l'être certaines grandes guerres, même si, bien entendu, comparaison n'est pas raison, le nombre de morts, la violence, les contextes sont évidemment différents, mais en termes de culture, de civilisation et surtout de vie quotidienne, le choc est considérable. Alors oui, bien sûr, les atteintes et les restrictions aux libertés sont en grande partie nécessaires face à l'urgence sanitaire, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'état de droit, parce que l'état de droit prévoit effectivement de telles mesures exceptionnelles, mais évidemment, des dérapages sont possibles et, j'allais dire, des traces peuvent rester à l'avenir, et c'est ce qui me préoccupe le plus. Moi, je crois que nous sommes dans une phase de confinement, nous sortons de la sidération, de l'urgence de se nourrir, de protéger les autres, et là va commencer une phase marquée peut-être par des violences et des crispations, des recherches de boucs émissaires, et puis surtout une autre phase ensuite, où la démocratie peut vraiment être en danger par l'augmentation du chômage, par les crises économiques et sociales, etc. Après quoi, on aura très probablement des pistes culturelles positives, un changement du rapport à l'autre, un changement du rapport à la mondialisation, à l'unité du genre humain, un changement du rapport au temps. Tout cela, on peut l'espérer. Mais on passera par une phase dangereuse pour la démocratie.
Alors, les dérives possibles et les traces, on a le temps d'en parler dans les minutes à venir. Aujourd'hui, Alain Chouraqui, l'équilibre entre les mesures de restriction de liberté liées à la situation sanitaire et l'état de droit démocratique, pour l'instant, cet équilibre est tenu?
Il me semble que oui, à condition véritablement que toutes les affirmations qui sont déjà en grande partie dans la loi, toutes les affirmations selon lesquelles cela sera temporaire soient effectivement tenues et que les contre-pouvoirs démocratiques de toute nature, à la fois parlementaires, sociaux, société civile et que tous ces contre-pouvoirs y veillent. Parce que, quelle que soit la bonne ou mauvaise volonté des dirigeants partout, on voit bien le risque que des dispositifs restent, oui. S'installent et de mauvaises habitudes soient prises.
Je salue Antonio Casilli, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, professeur à Télécom Paris à l'EHESS, auteur de ce livre « Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité » qui a fait date. Et puis plus récemment, « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Les deux sont édités au Seuil. Là aussi, premier constat, Antonio Casilli, ces dernières semaines, nous sommes entrés un peu plus dans l'ère du monde 2.0. Au fond, les nouvelles technologies sont omniprésentes pour rester en contact avec nos proches en ce moment, pour travailler bientôt et déjà en partie, pour respecter le confinement. Les nouvelles technologies, plus que jamais, sont liées à notre existence.
Oui, mais c'est un monde 2.0 à deux vitesses, si l'on veut, parce que pour une partie de la population, pour ceux qui peuvent se permettre, à cause de leurs conditions économiques ou de leur métier, de respecter le confinement à 100%, c'est effectivement le triomphe du télétravail, des courses à distance, mais par contre, pour une partie importante de la population française et mondiale, ceci s'est soldé par un confinement qui est devenu une sortie forcée dans des conditions qui sont extrêmement dangereuses, parce que on a affaire pour certains métiers, certaines professions, à une très forte proximité physique qui est demandée par le type même de travail, et donc là il n'y a pas de tel travail possible. Finalement il y a la proximité physique, le danger de l'exposition, et très souvent il s'agit de métiers qui sont inscrit dans un contexte de précarité, si on pense surtout, par exemple, aux nouveaux travailleurs des plateformes.
Alors, le lien entre les nouvelles technologies et nos libertés publiques, on pourrait donner la parole à un premier auditeur pour en parler. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes plutôt en soutien aux mesures engagées pour l'instant pour notre sécurité, n'est-ce pas ?
Oui, je suis plutôt en soutien à ces mesures-là, mais comme le disait la personne précédente, la personne encore avant, oui. Il faut que ces mesures soient prises, en fait, mais dans le contexte où on est, dans l'urgence sanitaire, on est dans une période où on sait que c'est très dur et que si on veut en sortir, il n'y a que le confinement qui est possible. Et aujourd'hui, on voit bien que, comme disait la personne précédente, il y a deux vitesses, oui, pour les travailleurs, mais aussi dans le confinement, parce que moi, mes amis, on voit autour de nous, tout le monde reste chez soi et ne sort juste soit ceux qui doivent travailler, soit pour aller faire des courses, et c'est tout. Mais il y en a qui permettent de sortir encore pour autre chose, pour faire des soirées entre amis, des choses comme ça, j'ai grand de choses, et je trouve ça pas logique. Soit on limite tout le monde, ou le maximum possible dans comme on peut, mais il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. Et si on peut pas jouer le jeu, il faut prendre des mesures un peu plus fortes encore, un peu plus dures.
Et par exemple, l'utilisation de drones ne vous choque pas ou ne vous choquerait pas dans les villes où ça n'existe pas encore ?
Bah non, j'ai vu que dans certaines villes, c'était déjà utilisé, oui. En fait, pour faire de l'interrogation, mais demander à distance, en fait. Et je trouve que c'est bien, c'est pour protéger les personnes qui font les contrôles aussi. Comme vous disiez, de toute façon, ce virus se transmet que par proximité. Et je trouve ça pas si mal, l'utilisation de drones. Après, je sais qu'il y a l'utilisation du téléphone. Je sais que ça a été mis en place en Corée et que ça a été très fort. Mais bon, la Corée, c'est c'est un autre mode de fonctionnement. Et si on devait en arriver là, on en arrivera là. Mais aujourd'hui, on n'a pas le besoin de le faire. Mais si un jour, on voit que notre courbe ne diminue pas et que les gens continuent à faire ce qu'ils veulent, on sera peut-être obligé de passer par là.
Alors, on va soumettre ça à nos deux invités. Alain Chouraqui, d'abord, l'argument qui est massif en ce moment, qui consiste à dire qu'il faut avant tout respecter le confinement. Et oui, faut en passer par des mesures un peu extrêmes, présence de la police assez massive, voire des drones, eh bien, il faut l'accepter. Cet argument-là, est-ce qu'il est incontournable ?
Il me semble que, sur l'essentiel, il est incontournable à condition que tout cela soit fortement encadré. Bon, que cela soit proportionné et fortement encadré. On a évoqué les drones, vous avez évoqué les drones, l'auditeur a aussi évoqué le tracking, le fait de suivre avec le téléphone les déplacements des gens à terme, ça n'est pas encore en place, ou pas du tout encore envisagé, mais pas en place en tout cas en France. Là, on touche vraiment j'allais dire, le point ultime, me semble-t-il, de l'atteinte aux libertés. Alors, il faudrait, si l'on est obligé d'y aller, il faudra vraiment y aller avec une vigilance démocratique, probablement des dispositifs de contre-pouvoir très accentué pour s'assurer encore une fois de la nécessité, de la proportionnalité et du caractère extrêmement provisoire, même si de toute façon je suis extrêmement réticent à l'égard de cette perspective parce que, je l'évoquais tout à l'heure, il en reste toujours des habitudes, des manières de faire, des dispositifs techniques cachés que l'on aura du mal à contenir même dans l'avenir.
Ouais, on va voir ce qu'en pense Antonio Casilli qui connaît ça par cœur. Hier, Édouard Philippe a dit que si backtracking, pour employer l'expression anglaise, le traçage numérique, s'il devait exister, ce serait sur une base volontaire. Et Le Monde fait état d'un sondage ces dernières heures qui montre plutôt le soutien de la population, l'acceptation de la population.
Voir la résignation de la population. Là, on est face à une campagne de propagande de notre gouvernement, mais aussi d'autres gouvernements, soyons clairs. Hein. Autant de pays qui sont caractérisés par des dictatures, autant par des pays qui ont des démocraties troubles comme la nôtre. La France est engagée depuis une décennie dans une longue campagne d'établissement d'une surveillance de masse. Cela passe par des dispositifs légaux, je pense à la loi renseignement, je pense à des lois qui remontent à déjà il y a 8 ans ou 10 ans même dans certains cas et qui ont progressivement érodé nos libertés publiques. Ceci, à mon avis, ne donne pas la possibilité d'être optimiste. Il ne faut pas s'imaginer qu'on sera capable de mettre en place les contre-pouvoirs ou les mesures de contrepoids qui puissent balancer ce type de situation. Là, on est face à une occasion en or pour les producteurs de surveillance de masse pour se faire de la pub gratos et pour imposer leur vision de la société qui est une vision dans laquelle tout le monde est coupable et donc forcément il faut les sanctionner. Donc l'idée effectivement d'installer le soupçon vis-à-vis de ses voisins, de faire circuler ces informations sur lesquelles la violation de la quarantaine et du confinement serait généralisée, alors que les chiffres attestent en France comme ailleurs que ceci n'est pas le cas. Si on regarde un pays traditionnellement allergique à la discipline publique, je pense à l'Italie, d'où je viens, comme oui. On peut deviner mon accent, c'est un pays dans lequel 95,7% des personnes ont respecté sur désormais plus d'un mois le confinement. Ceci est inouï, c'est un succès phénoménal. On n'est pas face à des violations massives qui demandent le fait de bouleverser complètement notre mode de vie et surtout d'imposer des jouets dystopiques comme des drones ou encore pire, ces systèmes de traçage par téléphone mobile qui sont en plus présentés comme des solutions miracles appliquées avec succès en Corée du Sud, à Taïwan. Ceci est un mensonge. Et un mensonge en plus qui sert à justifier le fait de l'imposer aussi dans nos pays, alors que si on va demander justement aux Coréens ce qui a déterminé le succès de leur stratégie contre le coronavirus, ils vont vous dire des tests massifs. Et les Taïwanais, ils vont vous dire de l'information de qualité du gouvernement, pas la surveillance et pas le traçage des citoyens.
Dans le contexte actuel, Antonio Casilli, il n'y a aucun modèle Corée, Singapour, où le traçage numérique a pu aider à la lutte contre l'épidémie, à la sortie du confinement. De votre point de vue?
Alors, il y a deux modèles qui sont, par exemple, des modèles qui sont, les deux passent par des applications mobiles ou des traceurs, comme par exemple des bracelets à Hong Kong ou des applications mobiles à Singapour, mais même en Chine. À Singapour, par contre, il y a un type particulier d'application mobile qui est basé sur une technologie qu'on appelle la technologie Bluetooth. C'est celle qui nous sert, par exemple, pour nous connecter sans fil avec nos casques, des trucs comme ça. Voilà. Donc, elle est basé sur l'idée qu'il n'y a pas d'enregistrement central et il y aurait tout simplement stocké sur un téléphone l'information d'être passé à proximité d'une personne qui a été infectée. Alors que les autres applications et celles qu'on cherche par exemple à imposer en France est basée sur du GPS. Le GPS donc il nous trace, il nous géolocalise à tout moment et donc elle pose un problème d'anonymisation, elle pose un problème d'efficacité parce que si vous vous baladez dans des ruelles, je sais pas, à Marseille ou à Venise, bonne chance pour identifier exactement s'il s'agit d'une personne ou s'il s'agit de tout un bâtiment ou d'un pavé de maison que vous devez bloquer et mettre en quarantaine. En plus, évidemment, ceci n'est pas du tout cohérent avec le RGPD, parce que même s'ils vous disent que c'est anonymisé a posteriori, mais au départ, c'est une donnée qui identifie au moins un porteur d'un équipement mobile. Donc, fort probablement, ils vous identifient sur la base de votre numéro de téléphone ou de votre adresse IP, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, c'est problématique dans la mesure où c'est présenté comme une technologie miracle qui est faite en l'absence de technologies qui sont indiquées par les autorités sanitaires comme les seules
les plus efficaces.
Qui marchent. Donc, c'est-à-dire les masques, le port du masque dans l'espace public, ce qui poserait un problème pour notre gouvernement qui adore désormais la reconnaissance faciale. Bonne chance pour la reconnaissance faciale si tout le monde porte des masques. Et l'autre question, évidemment, c'est la question des tests. Si on n'a pas des tests, vous pouvez bien tracer et identifier les personnes qui sont peut-être positifs, mais il faut pouvoir les tester. Et après, évidemment, il faut pouvoir les soigner. En absence de tests, en absence d'un nombre adéquat de lits d'hôpitaux,
c'est compliqué.
Nous avons un problème.
C'est compliqué. On retourne en standard en précisant que le RGPD dont vous parliez, c'est le règlement européen qui, pour le dire très vite, contrôle l'usage que l'on fait de nos données numériques. Bonjour Luc, au 01 45 Bonjour. 24 7. Vous nous appelez de l'Ariège.
Oui, je vous appelle par rapport à un petit problème qui est récurrent sur pas mal de sujets, mais là par rapport en fait aux amendes qui sont infligées aux gens qui sortent alors qui sont pas de raison de le faire. C'est le côté en fait antisocial, parce que une amende de 135 euros a pas du tout le même impact sur quelqu'un qui est au RSA par exemple, ou quelqu'un qui gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Et du coup, ça crée une inégalité entre les citoyens.
Soumettons cela à Alain Chouraki. Effectivement, une amende de 135 euros n'a pas la même valeur selon que vous êtes riche ou pauvre. Et ça pose la question des inégalités qui risquent de se creuser au long de cette période d'état d'urgence sanitaire.
Oui, vous l'avez dit vous-même, c'est ce que j'allais dire. Évidemment que on se retrouve avec cette amende, comme d'ailleurs avec toutes les amendes et avec toutes les sanctions qui ne sont pas, si j'ose dire, indexées au niveau de revenus et de ressources des personnes. Alors, est-ce que c'est pour autant acceptable? Moi, je pense que ça fait probablement partie des questions qui vont devoir être posées et qui peuvent faire partie des traces positives à se poser ce type de questions, effectivement. Je voudrais saisir le fait que j'ai la parole, en profiter pour appuyer sur au moins deux points, ce qui a été dit juste auparavant. D'une part, dire que le caractère de nécessité et de proportionnalité, je l'avais évoqué, doit absolument être établi, et je vois que l'autre intervenant qui est plus compétent que moi sur le plan technique estime que ce n'est pas le cas, donc c'est un élément très important. Et le deuxième point, c'est que la question du rapport entre sécurité et liberté se pose depuis longtemps. Le curseur se déplace depuis des décennies maintenant vers la sécurité, et que c'est dans ce contexte effectivement qu'il faut apprécier et être extrêmement vigilant sur le plan démocratique à l'égard de ce pas de plus qui ne doit être fait que, je répète, temporairement et si la nécessité est établie.
Avant d'entendre François au standard de France Inter, encore une question à Alain Chouraki sur les traces que laissent les régimes d'exception dans le droit commun. On cite toujours l'exemple d'une partie de la législation antiterroriste qui est entrée dans le droit commun. On peut faire valoir aussi que la menace terroriste, elle demeure, et que ces mesures sont utiles, et que la trace qui reste dans notre législation, elle est utile.
Oui, on peut le dire, et on peut aussi dire, je dis bien aussi, ça fait partie du débat démocratique qu'il faut avoir, et je suis d'accord aussi sur le fait que ça n'est pas acquis d'avance que s'installe un tel débat démocratique. Il faut avoir ce débat pour savoir quelles traces qu'on peut accepter dans la durée sur tel ou tel plan. La dérive a commencé, elle est en cours, elle est encore une fois nécessitée dans la période actuelle pour une large partie, à regarder au point par point. Il faudra ensuite vraiment une revitalisation démocratique extrêmement forte, qui peut d'ailleurs faire partie des traces culturelles beaucoup plus larges. Hein. Y a beaucoup d'éléments sur lesquels beaucoup de difficultés qui se sont exacerbées actuellement. On parlait des inégalités tout à l'heure, mais il y a d'autres éléments, l'accélération du temps, les changements, la négligence de l'autre, etc. Tout cela, ce sont des points, et vous évoquiez donc les traces possibles de dispositifs policiers, ce sont des points cet événement actuel terrible peut contribuer à faire reposer de façon extrêmement forte. Ce serait la sortie positive dans 2 ans, dans 3 ans, après un passage très, très difficile en termes de tentations autoritaires.
François au standard de France Inter. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Toulouse et vous nous proposez un deal en quelque sorte.
Voilà, pour éviter d'avoir un dispositif autoritaire, une sorte de contrat entre l'État et le citoyen. Comme on s'achemine vers un déconfinement progressif et régionalisé, et dans les régions où le déconfinement serait un petit peu plus tôt et un peu plus large, puisqu'elles auraient été moins atteintes par le virus, donc sur la base du volontariat, on téléchargerait l'application permet de savoir qu'on a voisiné par Bluetooth avec d'autres personnes. On téléchargerait l'application, on donnerait son accord pour être suivi, puis que son téléphone soit tracé dans son déplacement. Donc on pourrait à la fois reconstituer les voisinages suspects, ou même soi-même si on est devenu suspect de porter le virus, ou bien en même temps on pourrait suivre ses déplacements et se déplacer de façon élargie par rapport aux contraintes actuelles du confinement.
Si on
n'est pas d'accord, eh bien on reste confiné dans les conditions actuelles. C'est une sorte de deal, comme vous dites, d'accord contractuel entre le citoyen et les autorités.
Antonio Casilli, qu'en pensez-vous de deux questions? D'abord, sur le principe du deal, est-ce que techniquement c'est possible?
Alors, écoutez, c'est la bande à Bluetooth, c'est la deuxième, je vous disais, il y a deux approches, l'approche GPS et l'approche Bluetooth. L'approche GPS est considérée, et là on est tous d'accord, comme un désaccord par rapport à un décalage par rapport à la régulation européenne sur les données. L'approche Bluetooth semble, en surface, être plus cohérent avec nos libertés publiques. C'est problématique, c'est faux d'ailleurs, c'est complètement faux. L'idée que le Bluetooth soit respectueux de nos libertés oublie que déjà l'installation sur base volontaire nous met face à des discriminations et ensuite à qu'elle est tout aussi envahissante vis-à-vis de notre vie privée que le traçage GPS. Je vous explique pourquoi. Elle est problématique du point de vue nos libertés parce que elle est inefficace en l'absence de tests massifs, ça on est d'accord, d'abord, première chose. Pour l'instant, elle a fonctionné seulement à un endroit dans le monde, c'est dans la ville-État de Singapour. Mmh. Mais est-ce que elle est généralisable à un continent européen ou une nation qui fait non pas 5 millions de personnes, mais 60, 80 millions, etc. Et après, elle est tout aussi envahissante parce qu'elle doit être installée par tout le monde, elle doit être filée, c'est-à-dire vous devez vraiment remettre en main propre votre dispositif à toute personne autorisée, que ce soit des médecins, des policiers, des employeurs, des voisins, des propriétaires de magasins, enfin, vous faites la liste que vous voulez. Et après, personne ne doit pouvoir étendre son propre appareil ou à modifier les données. Donc là, on est face, effectivement, à un traçage qui dépasse l'autonomie du citoyen. Et après, c'est discriminatoire, parce que imaginez-vous une situation dans laquelle, aujourd'hui, on vous dit, mais installe tranquillement cette application, de toute façon, tu peux lutter contre le coronavirus, elle est en open source, etc. Mais le jour suivant, on vous dit, tu peux pas accéder au supermarché si t'as pas installé cette application. Tu peux pas monter sur le bus si t'as pas installé cette application. On ne te discrimine pas parce que t'es malade, ce qui serait contre la loi. On te discrimine parce que t'as pas installé un truc qui atteste de ta santé. Donc là, c'est quelque chose de complètement dystopique encore.
Hélène, au standard de France Inter, au 01 45 24 7000. Soyez la bienvenue, Hélène.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voulais juste faire un petit témoignage. J'ai une amie qui a 80 ans, qui habite dans le centre du village, dans l'Hérault, dans le centre d'un petit village dans l'Hérault. Elle a pris sa voiture pour faire 4-5 km, aller promener son chien et pouvoir le lâcher dans les bois. Quand elle est revenue, elle a eu une contravention de 135 euros. Elle a essayé d'expliquer aux policiers que qu'elle marchait avec une canne, elle a 80 ans, et qu'elle ne pouvait pas tenir son chien d'un côté et sa canne de l'autre, qui risquait de la faire tomber dans la rue. Et elle a quand même été contre...
Elle a quand même eu l'amende.
Voilà. Voilà ce que disait votre spécialiste. Ouais. Moi, je n'ai qu'une spécialité, mais j'ai été outrée d'entendre ça.
Merci Hélène pour ce témoignage. Effectivement, des contrôles plus ou moins acceptés, plus ou moins légitimes et quelquefois des abus. On en parlait sur France Inter hier. Il nous reste très peu de temps. Alain Chouraqui, je voulais vous faire réagir à cette dernière minute. C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se dit particulièrement préoccupée par les mesures d'urgence en Hongrie. Vous êtes inquiet, vous aussi, pour l'état de la démocratie en Europe aujourd'hui?
Oui, vraiment, très, très, très profondément. Il y a des pays comme la Hongrie, ce n'est pas le seul pays, même si on en parle beaucoup à juste titre, qui montre un mauvais chemin, et depuis, encore une fois, plusieurs années. Et on l'évoquait tout à l'heure, la situation actuelle est vraiment l'occasion pour ceux qui ont des visées autoritaires d'avancer leur pion de façon extrêmement dangereuse. Juste un petit mot, dire que peut-être dans l'État, les responsables qui doivent piloter ces dispositifs de surveillance ne doivent, ce n'est pas la même chose si c'est le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur qui pilote les choses.
C'est pas la même chose si c'est le préfet ou le juge.
Oui, alors, exactement. Ça fait au juge, ça n'est pas pareil. Et ça peut d'ailleurs être en dehors de l'État, ou tout au moins avec des organismes indépendants, comme le Défenseur des droits, la CNIL, etc., qui pourraient, au-delà de la surveillance actuelle, avoir un rôle plus actif dans le pilotage de ces mesures liberticides, nécessaires ou pas, on en a parlé.
Merci beaucoup Alain Chouraqui et je remercie également Antonio Casilli et les auditeurs de France Inter d'avoir participé à ce débat.